Frédéric Join, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes animateur au GAB 72. Le GAB 72, on va le rappeler, donc c'est le groupement des agriculteurs biologiques de la Sarthe. Vous conseillez donc les agriculteurs bio du département, mais vous vous adressez aussi à ceux qui veulent s'installer en bio ou ou se convertir. Alors, on en parle beaucoup en ce moment, de l'agriculture bio, qui est un moyen pour beaucoup de professionnels de l'agriculture de sortir de cette crise qui est aujourd'hui donc à son apogée. Alors d'abord, vous qui êtes au contact des producteurs engagés en bio, dites-nous si eux véritablement s'en sortent mieux que les conventionnels.
Bah aujourd'hui, sur bon nombre de productions, les revenus des agriculteurs bio sont supérieurs aux revenus en conventionnel. C'est aussi vrai pour des agriculteurs qui ne sont pas forcément en bio, mais qui ont des pratiques économes ou qui visent à l'autonomie sur leur ferme, notamment en élevage, et qui sont sur l'autonomie alimentaire.
Quelle vision vous avez sur les problèmes actuels donc de l'agriculture, notamment de toute cette crise hein, qui ressort notamment au travers d'un syndicat, le premier syndicat agricole, FNSEA, où il y a eu beaucoup d'actions, hein, même depuis cet été. Hein, donc je parlais d'apogée, c'est vrai que là on est une sorte de paroxysme. En ce moment c'est le salon de l'agriculture, on en parle beaucoup, les politiques se font insulter. Quelle vision vous avez sur ces actions? Et ces revendications et et cette souffrance en fait.
Au niveau du réseau des agriculteurs bio, il y a une compréhension de la détresse de tous ces producteurs qui sont complètement impuissants par rapport à la loi du marché, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui sont déterminés en fait à un niveau international, hein, notamment sur le différent de prix des matières premières. Donc il n'y a plus aucune prise des agriculteurs sur ça. Donc il y a vraiment une détresse qui est totale, puisqu'ils n'arrivent plus à s'en sortir, puisque les prix de vente sont inférieurs aux prix de revient. Aujourd'hui, là, en agriculture biologique, on essaye de maîtriser la commercialisation des différents produits, puisque c'est la clé, c'est une des clés de la maîtrise des volumes et des prix. Donc il y a une forte volonté des agriculteurs bio de garder la main sur la commercialisation par le biais notamment de groupements de producteurs qui commercialisent ensemble pour pouvoir maîtriser à la fois les volumes, les prix et le développement, essayer d'avoir un développement cohérent des filières.
Alors, c'est vrai qu'on constate de plus en plus que de ménages, notamment français, mais ça dépasse la France, c'est européen, c'est même mondial, de plus en plus de gens donc consomment des produits issus de l'agriculture biologique. Est-ce que vous-même, qui êtes animateur au GAB, vous constatez donc une demande de la part d'agriculteurs conventionnels, qui souhaitent s'informer pour eh bien sortir de de cette situation où ils se trouvent et bien d'avoir un espoir pour pouvoir vivre ensuite de leur métier au travers de la production biologique.
Alors, depuis un petit peu plus d'un an, on a un mouvement de conversion. On est contacté par beaucoup d'agriculteurs qui souhaitent se convertir en agriculture biologique. Et ce mouvement, il a commencé avant que ce soit vraiment la crise, en fait. Donc on a été l'an dernier notamment contacté par pas mal de producteurs qui sont en élevage de bovins viande et qui avaient des systèmes qui étaient très très proches du bio. Et donc qui ont fait le choix de passer en bio puisqu'il n'y avait pas grand-chose à faire au niveau technique pour eux et puis que les aides bio étaient intéressantes. Donc on a eu ce mouvement-là qui continue depuis un petit peu plus d'un an. Et puis là, dernièrement, ces derniers mois, on rencontre beaucoup plus d'éleveurs laitiers. Notamment à cause du prix du lait qui est très très bas, hein. Donc en conventionnel, le prix du lait il est environ de 300 euros et puis en bio il est autour de 430 et 140
Oui,
euros,
les
1000
mille
litres de
litres,
lait.
les 1000
Voilà.
litres de lait, oui, c'est ça, oui.
C'est ça. Et donc, ça, c'est
Oui,
c'est
donc
une
150
motivation.
euros de plus, quoi, pour
Ouais,
le
c'est
bio.
ça, à peu
Ouais.
près, ouais. Et donc, ça, c'est une motivation supplémentaire pour passer en bio. Donc, on a quand même rencontré pas mal de producteurs en production laitière qui viennent nous voir suite à l'évolution de leur système. Donc, souvent, on rencontre des gens qui passent pas en bio du jour au lendemain, mais qui font des modifications sur leur système, souvent qui vont vers plus d'autonomie. Donc, l'autonomie, c'est produire un maximum d'aliments sur sa ferme, plutôt que de l'acheter à l'extérieur, puisque aujourd'hui, il y a un certain nombre d'éleveurs qui sont en difficulté à cause du système qu'on leur a préconisé, qui était d'acheter les céréales à l'extérieur. Et donc ça fonctionne quand on a des prix de vente élevés, mais lorsque le marché se retourne, ça n'est pas viable. Et donc en bio, il y a une obligation, notamment par le cahier des charges, d'être autonome et de produire son aliment soi-même, ce qui fait qu'en produisant son aliment soi-même, on n'est pas dépendant des marchés extérieurs.
Alors vous parliez de systèmes qui étaient vraiment proches en fait du bio comme l'élevage donc de vaches allaitantes. C'est vrai que il y
Avec
a pas
beaucoup d'herbes.
voilà beaucoup d'herbes. Dans notre région ainsi, il y a beaucoup évidemment de systèmes comme ça, hein, vraiment avec des labels. Il y a le bœuf fermier du Maine. Est-ce qu'il y a des systèmes où c'est vraiment plus dur, où on prend du temps? Enfin, déjà, combien prend le temps d'une conversion d'un système existant mais conventionnel à un système biologique? Combien ça prend de temps? Et est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça demande des sacrifices? Est-ce que voilà, c'est compliqué, on est moins bien payé, il faut attendre, il y a un temps de latence et
Ouais.
ensuite ça va mieux.
Donc pour la conversion vers l'agriculture biologique, elle dure 2 ans, de fait. Donc le jour où le producteur s'engage en agriculture biologique, il va avoir 2 ans de conversion et au bout de ces 2 ans, il va pouvoir commercialiser en bio. Donc ça, c'est la conversion proprement dite. Ensuite, ce qu'on observe sur le terrain, c'est que quand même, pour avoir plus de chances de réussir, il faut qu'il y ait bien souvent déjà des changements de système auparavant. Donc, par exemple, soit on est en toute herbe et du coup, le changement de système est minime, et effectivement, en 2 ans, c'est très très simple, il n'y a pas vraiment de révolution. Mais quelqu'un qui est, par exemple, en système laitier, et qui dans sa surface agricole a une majorité de maïs et peu de prairies, là ça va occasionner beaucoup de changements. Et là on préconise que les agriculteurs commencent déjà à changer leur surface pour mettre plus de prairies par exemple. Et ensuite, quand ils ont déjà commencé à modifier leur système, qui sont beaucoup plus autonomes sur leur ferme, là à ce moment-là, passer en bio, parce que ça sera beaucoup plus facile que à la fois. Enfin, changer de système pendant les 2 années de conversion au moment où on produit en bio, mais on est rémunéré en conventionnel. Effectivement, cette phase de 2 ans de conversion est compliquée puisque la méthode de production est biologique. Donc, parfois, il peut y avoir certains surcoûts ou en céréales, notamment une baisse de rendement. Mais comme c'est une phase de conversion, on ne vend pas encore en bio, donc on vend en conventionnel. Donc ce qui fait que si on a une baisse de rendement et qu'en plus on vend au prix d'avant, donc des prix faibles, effectivement c'est une période qui est difficile. C'est pour ça que donc, nous on conseille aux personnes, s'ils sont trop éloignés de l'agriculture biologique, c'est de commencer à modifier leur système avant leur passage en bio. Donc ça peut prendre un an, 2 ans, tout dépend de ce que veulent faire les agriculteurs et de leur capacité. Et puis il y a aussi donc les aides à l'agriculture biologique qui permettent de compenser financièrement cette baisse de revenus qui dure 2 ans en fait.
Des chiffres pour la Sarthe par rapport au nombre d'exploitations. Il y a combien d'exploitations biologiques?
Alors on était en 2015 à 220 exploitations en agriculture biologique, dans toutes les productions, donc majoritairement en élevage bovin, bovin viande et bovin lait, et puis aussi donc un petit peu en viticulture. On a une trentaine de maraîchers, Après, on a des élevages caprins, ovins, des arboriculteurs, certains qui sont en céréales, en poulet de louer notamment, poulet de chair, poules pondeuses. Il y a d'autres qui travaillent avec d'autres structures que les fermiers de louer. On a une production qui est relativement diversifiée, mais quand même centrée sur polyculture-élevage.
Et ça représente beaucoup en surface, par exemple. Ça représente combien?
Alors, on doit être autour de 15 000 hectares en Sarthe.
C'est un pourcentage que vous avez par rapport à...
Eh ben, on était en 2015 vers un peu plus de 3% de la surface agricole.
Ouais. Donc, en fait, c'est peu. Et vous êtes peut-être la Sarthe est en deçà en fait des chiffres des Pays de Loire par exemple.
Oui, la Sarthe est quand même beaucoup en dessous de la moyenne des Pays de Loire. Alors on est sur la moyenne nationale, mais par contre par rapport à d'autres départements comme la Loire-Atlantique est plutôt le double, donc autour de 6%. Pas la Loire-Atlantique, pardon, le Maine-et-Loire. Donc autour de 6%, et puis la Loire-Atlantique, ils sont à environ 10% déjà. Enfin en 2015, donc maintenant ça a un peu augmenté, mais on n'a pas encore assez de recul sur les chiffres. On sait qu'il y a une forte augmentation en ce moment, mais la production de chiffres prend un petit peu de temps.
Je voulais parler aussi d'un sujet dont on parle aussi au plus haut niveau, puisqu'on en parle aux assemblées, au Parlement français, ce sont les circuits courts et l'approvisionnement donc de ces produits locaux, plutôt produits donc bio ou vraiment produits localement du terroir, avec un projet de loi sur la restauration donc hors domicile. Est-ce que en Sarthe il y a la volonté des élus locaux notamment d'organiser des filières courtes pour notamment les cantines mais aussi les administrations, c'est la question.
Bah la volonté, je sais pas. On en entend beaucoup parler, ça c'est sûr. Après, quand on regarde les volumes qui sont achetés et la concrétisation des achats, c'est quand même beaucoup beaucoup plus compliqué. Donc,
c'est-à-dire que ça revient cher en fait, c'est ça? Ça revient cher aux intendants des lycées par exemple. Parce qu'il y a des choses qui se font par rapport à la région, depuis la Loire, même si ça a changé de gouvernance. On peut imaginer que l'idée de favoriser les circuits courts pour les établissements scolaires, c'est bon pour l'image aussi, quoi. Enfin.
Oui, c'est bon pour l'image. Après, de dire que ça coûte plus cher, c'est vrai que souvent ça peut coûter un peu plus cher. Il y a beaucoup d'exemples en dehors du département de la Sarthe, puisque on est quand même très très en retard au niveau de la Sarthe là-dessus, mais il y a beaucoup d'exemples de restauration collective, restauration scolaire, où ils sont passés aux produits bio et locaux sans augmentation du prix d'achat.
C'est-à-dire
la matière première.
Voilà,
il y a des leviers.
Voilà, puis il y a des coûts en fait de transport qui sont moindres, puisque ça vient du local en fait, c'est ça aussi.
Alors c'est
sûr. Il y a moins de coûts de logistique en fait, c'est ça, et de stockage et de.
Alors pas forcément, c'est plus sur la gestion interne du restaurant, donc. J'ai ma collègue Isabelle Pordois qui travaille sur ce sujet avec les restaurants scolaires. Et donc en mettant en place différentes choses, il y a moyen de réduire le coût, notamment les quelques pistes qui doivent être explorées, c'est la réduction du gaspillage alimentaire qui s'observe quasiment systématiquement lorsqu'on met des produits de qualité pour les enfants. Le gaspillage alimentaire est aussi dû à la piètre qualité des produits qui entraîne peu d'envie de la part des enfants de les consommer. Donc lorsqu'on réduit le gaspillage, on fait des économies. Il y a le sujet de la viande aussi. Donc on sait bien que la viande, il n'y a pas besoin d'en manger à tous les repas. Donc en réduisant un petit peu la viande, donc en en mettant moins mais de meilleure qualité, on peut avoir le même coût. Et puis il y a aussi sur la façon de travailler les produits des moyens d'optimiser. Puis enfin il y a parfois en fait on se rend compte que sur des produits locaux on peut être au même prix que des produits industriels importés, puisqu'on a des variations de prix qui sont avec des fortes fluctuations au cours de l'année. Et si on prend un petit peu le temps de regarder ces prix, on s'aperçoit qu'un produit bio local n'est pas plus cher qu'un produit ni bio ni local, quoi.
Voilà, en tout cas,
j'espère. Il y a plein d'autres leviers à activer pour que l'impact sur le prix soit minoré, soit au nul, en fait.
Voilà, en tout cas, c'est très intéressant de discuter avec vous. Vous avez fait votre assemblée générale, je crois que c'était mercredi dernier. Bah, c'était avant-hier, voilà.
Oui.
Et donc, justement, vous avez parlé d'accompagnement. Voilà, motivation diverse, santé, produire autrement, nouveau souffle économique, c'est plutôt l'angle qu'on a pris là dans cette interview, parce que par rapport évidemment à toute cette crise agricole qui fait un écho énorme au niveau du salon de l'agriculture, et vous avez donné donc des pistes d'accompagnement donc pour les agriculteurs intéressés. On peut peut-être donner des coordonnées pour dire aux agriculteurs qui nous écoutent de peut-être vous contacter et d'avoir plus de renseignements pour savoir comment on peut se convertir en bio, en tout cas permettre peut-être à l'avenir de mieux être rémunéré par ce travail qui fait que les agriculteurs donnent beaucoup de leur temps et beaucoup de sacrifices, et c'est vrai qu'on comprend en fait leur détresse aujourd'hui, quoi.
Ouais.
Donc vous êtes situé, je crois, au Mans, en fait.
Nos locaux sont au Mans, au 31 rue d'Arcole. Et puis après on se déplace sur les fermes pour aller rencontrer les agriculteurs lorsqu'ils ont des projets de conversion. Et on leur propose un accompagnement qui est adapté à chaque personne. Et la philosophie du GAP, c'est d'apporter le maximum d'informations, le maximum d'accompagnement à la personne.
Voilà.
Lui apporter en fonction de ses besoins.
C'est pas forcément un message, je dirais entre guillemets, politique sur le bio c'est bien, le conventionnel c'est mal. C'est plutôt des conseils techniques et des conseils sur l'optimisation économique, la viabilité de l'exploitation agricole.
Oui, il y a des conseils. Oui, une partie, c'est, on va dire, il y a une partie technique, mais il y a surtout une grosse partie humaine, puisqu'on met vraiment en relation les producteurs qui ont des projets avec d'autres producteurs bio, ou des producteurs qui ont des projets comme eux dans le même secteur. Donc on met vraiment en relation les gens, ça c'est très important, et on les fait échanger avec des producteurs qui sont déjà installés, qui sont déjà passés en bio, parfois depuis longtemps ou parfois récemment, et qui peuvent faire bénéficier de leur expérience.
Voilà, donc je vais donner un numéro de téléphone, le 02 43 28 00 22, c'est ça, c'est celui que j'ai fait pour vous contacter, vous êtes vous-même là-bas, dans votre local, rue d'Arcole. Merci beaucoup Frédéric Join d'être intervenu sur l'antenne de Fréquence Sillé.
C'était avec
plaisir. On vous souhaite une excellente journée et on vous dit à bientôt.
Vous aussi.
Pour d'autres interviews, d'autres infos concernant l'agriculture biologique. Merci à vous.
Merci.